Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de leur faire écouter, de vous faire écouter l'air du Pâtre de Tristan et Isolde de Wagner que j'évoquais la dernière fois à la toute fin du cours. Alors je voudrais en effet vous le faire écouter puisque c'est une citation ou une allusion de Proust dans La Prisonnière qui vaut la peine d'être analysée d'un peu plus près. Et je voudrais la commenter donc un peu plus en détail, puisque nous allons l'écouter. Vous vous souvenez du contexte immédiat de cette ère du Pâtre de Tristan et Isolde de Wagner, évoquée dans La Prisonnière. Pour le narrateur de La Recherche du Temps Perdu, c'est une sorte d'après-coup qui est la marque du génie d'avoir mis dans une œuvre un élément qui n'appartenait pas initialement à l'œuvre et qui est quelque chose comme, on pourrait dire, la griffe de son authenticité, pour reprendre une expression de Proust. C'est ça qui signe l'unité et la clôture de l'œuvre. Et le narrateur disait... C'est comme Wagner tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème, rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composée. C'est donc l'après-coup qui est la signature du génie. Et vous vous souvenez également du contexte, le narrateur était en train de jouer au piano la sonate de Vinteuil en l'absence d'Albertine, une mesure de cette sonate parfaitement connue le frappe, une mesure qui ne l'avait jamais frappé jusque-là, qui n'avait jamais remarqué jusque-là. Il y reconnaît Tristan et suit une digression sur les grandes œuvres du XIXe siècle, ces grandes œuvres qui sont toujours ratées puisque leur unité est rétrospective, puisqu'elle n'est pas préconçue, mais qui en même temps sont plus authentiques, plus organiques. Elles sont, comme il dit, merveilleusement incomplètes. Alors, l'ère du Pâtre de Tristan, c'est comme l'exemple, la preuve de cette unité rétrospective, organique du XIXe siècle. Balzac, Wagner, Hugo, Michelet. Ce sont les exemples de Proust. Attention, le narrateur ne dit pas que ce passage-là, c'est celui qu'il a reconnu. On vient de voir qu'il y avait une allusion à Tristan dans la sonate de Vinteuil, et puis il évoque cette ère du Pâtre de Tristan, mais rien ne nous dit, à mon sens, que c'était cela, l'allusion. On est peut-être conduit à le penser, puisque ce passage est immédiatement évoqué à la page suivante, mais enfin, rien ne dit que c'est l'allusion. C'est comme il est appelé par la digression sur les œuvres du XIXe siècle, et le narrateur nous dit, c'est tel morceau composé à part, né d'une inspiration non exigée par le développement artificiel d'une thèse. Donc c'est un morceau inspiré, non venant d'une thèse et qui vient s'intégrer au reste, un peu comme la pièce manquante d'un puzzle qui vient clôturer la totalité. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit du début du dernier acte, du troisième acte de Tristan et Isolde. Tristan est en train d'agoniser près de son château de Caréol en Bretagne et Curvenal, son écuyer, veille sur lui en compagnie d'un pâtre. Ils attendent l'arrivée d'Isolde, qui seule pourrait le guérir. Et voici le résumé, un résumé d'époque, contemporain de Proust. J'y viendrai tout à l'heure. Proust a assisté à cet opéra. Et on peut en retrouver la trace ici. Courvenal a transporté Tristan, blessé, en ce château ancestral. C'est là qu'il gît. Veillé par Courvenal, dans un profond évanouissement, un pâtre souffle une mélodie plaintive sur son chalumeau. Il demande à voix basse à Courvenal d'où viennent les souffrances de son maître, mais Courvenal évite de répondre et ordonne au pâtre de regarder attentivement si un navire arrive. Le pâtre s'étant éloigné avec tristesse, Tristan s'éveille. Quelques mots peut-être, avant d'écouter le passage, sur le chalumeau. Qu'est-ce que c'est qu'un chalumeau ? C'est une tige de roseau, hein, ça vient du latin, calamus, hein, c'est le roseau, c'est donc la flûte rustique qui est faite d'un roseau percé de trous. C'est le symbole de toute la poésie pastorale que ce chalumeau du pâtre. C'est aussi en français, contemporain de Proust, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une paille. Hein, quand on va dans un café et qu'on demande une boisson avec une paille, pour Proust, c'était un chalumeau. Et il y a un très bel exemple, une très belle autre occurrence du mot chalumeau dans La recherche du temps perdu que je ne peux pas m'empêcher d'évoquer pour voir que c'est un mot riche. On sent que Proust, enfin, il répète beaucoup ce mot de chalumeau du pâtre dans les pages qui nous concernent. Le mot est fréquent. Il y a visiblement une attraction pour ce mot de chalumeau. Et voici ce très beau passage qui le met en scène. C'est lorsque la grand-mère du narrateur est malade dans le côté de Guermantes. Le docteur Cottard a recommandé qu'on prenne sa température. Et voilà le passage. On alla chercher un thermomètre. Une belle apparition et description d'un thermomètre, et c'est le thermomètre dans la bouche de la grand-mère qui est là comparé au chalumeau, à la paille, pour boire ce qu'on appelle aujourd'hui donc une paille. On alla chercher un thermomètre. Dans presque toute sa hauteur, le tube était vide de mercure, à peine si l'on distinguait, tapis au fond de sa petite cuve, la salamandre d'argent. Elle semblait morte. On plaça le chalumeau de verre dans la bouche de ma grand-mère. Nous n'eûmes pas besoin de l'y laisser longtemps. La petite sorcière n'avait pas été longue à tirer son horoscope. Nous la trouvâmes, immobile, perchée à mi-hauteur de sa tour et n'en bougeant plus. Nous montrant avec exactitude le chiffre que nous lui avions demandé et que toutes les réflexions qu'eût pu faire sur soi-même l'âme de ma grand-mère eussent été bien incapables de lui fournir. 38.3. Bon, c'est évidemment, la page continue, hein, elle continue assez longtemps, c'est une, à mon sens, une magnifique page sur ce thermomètre médical qualifié de chalumeau. Ça me fait penser à un poème de Ponge, hein, quelque chose comme la lessiveuse de Ponge, avec une description très technique et en même temps animalisée de l'objet ordinaire qui devient un objet poétique. Et puis, en pensant ce matin à ce thermomètre, je me disais, mais pour que Proust le poétise de cette façon, peut-être qu'après tout, ce n'était pas un objet si fréquent encore au moment où la grand-mère en faisait l'expérience. D'ailleurs, c'est un objet qui a disparu aujourd'hui, hein, puisqu'on n'a plus le droit de les utiliser depuis une dizaine d'années, ces thermomètres de mercure. Dans l'édition de la Pléiade que je consultais ce matin, il n'y a pas de note pour ce thermomètre. Bientôt, il en faudra une, parce que les lecteurs ne sauront plus ce qu'était ce thermomètre de mercure, comme ils ne savent plus ce qu'est la lessiveuse de Ponge lorsqu'il m'est arrivé plusieurs fois d'enseigner ce texte, notamment aux États-Unis. L'idée de ce qu'est une lessiveuse est complètement étrangère à un adolescent d'aujourd'hui, et le thermomètre au mercure, ce sera bientôt le cas. Apparemment, ce thermomètre au mercure a été inventé en 1867. Donc, Proust, au fond, on a vu les premiers lorsqu'il était enfant. Ça a été inventé par le médecin anglais Thomas Clifford Allbutt. Et avant l'invention de ce thermomètre médical au mercure, eh bien, en effet, on comprend mieux tout ce que Proust, tout ce que le narrateur repère dans ce thermomètre. C'était très long de prendre la température avant le thermomètre à mercure. Et là, on plaça le chalumeau de verre dans la bouche de ma grand-mère. Nous n'eûmes pas besoin de l'y laisser longtemps. Aussitôt la température est repérée. Et puis l'autre qualité du thermomètre à mercure nouvelle, bizarrement, elle est repérée par Proust, c'est que le mercure ne descend pas. Une fois qu'il a monté, c'est un thermomètre à maximum, il ne descend pas, et c'est le cas ici. Nous la trouvâmes immobile, perchée, à mi-hauteur de sa tour, et n'en bougeant plus. Donc il y a la description d'un objet technique qui, après tout, n'est pas si ancien au moment où Proust le décrit. Et puis, comme je le disais, c'est aussi un objet qui a disparu. Voilà aussi ce qu'est la mémoire de la littérature, la mémoire d'un moment de la technique. Mais écoutons donc la fin du prélude de cet acte 3 de Tristan et Isolde, avec la première occurrence de cette air du pâtre qui joue donc un rôle assez important dans cette mémoire du narrateur. C'est donc la fin du prélude et aussitôt Tristan se réveille et ses premiers mots seront la vieille chanson « Pourquoi m'éveille-t-elle ?» Et là aussi, comme on va le voir, c'est un épisode de mémoire. L'enregistrement que vous avez entendu, c'est celui de Karl Böhm en 1966 au festival de Bayreuth. Alors, cette mélopée, évidemment, un peu curieuse dans l'opéra de Wagner. C'est un ce célèbre morceau de cor anglais, hein, comme dit Proust, le cor anglais a cette spécialité comme instrument de musique de n'être ni un cor ni anglais, hein, mais on ne connaît pas très bien l'origine de l'épithète anglais, si c'est possible que ça veuille dire anglais parce qu'il fait un angle, ou anglais parce que c'est une traduction d'angélique. En tout cas, ce morceau est si emblématique pour Proust de cette unité rétrospective de l'œuvre, c'est parce qu'il le sait que dans ma vie, dans ses mémoires, Wagner raconte que cette air lui a été inspiré, cette mélodie lui a été inspirée par un chant gondolier vénitien. Et voici ce que Wagner en dit dans « Ma vie ». Ce dont Proust se souvient, mais comme on va le voir, il s'en souvient vaguement et comme toujours chez Proust, presque toutes les références sont erronées puisqu'elles sont faites de chic ou de mémoire. Wagner disait, et le passage était connu, « Pendant une nuit d'insomnie, étant allé sur mon balcon vers 3 heures du matin, j'entendis pour la première fois le célèbre et ancien chant des gondoliers. Je crus reconnaître que le premier appel, rauque et plaintif, qui résonna dans la nuit silencieuse, venait du Rialto, situé à une distance d'un quart d'heure environ. Une mélopée analogue lui répondit de plus loin encore. Ce dialogue extraordinaire et mélancolique continua ainsi par intervalles réguliers. Les sensations que j'éprouvais là furent caractéristiques et ne s'effacèrent point de tout mon séjour à Venise. Elles sont demeurées en moi jusqu'à l'achèvement du deuxième acte de Tristan et peut-être m'ont-elles suggéré les sons plaintifs et traînants du chalumeau au commencement du troisième acte. Vous voyez que chez Wagner lui-même, il s'agissait d'un épisode de mémoire. Mais ce n'était quand même pas tout à fait ce que Proust appelait un morceau qui est mis dans un tiroir. Wagner ne parle pas d'un morceau qu'il aurait écrit et ensuite introduit, il parle d'un morceau qui était, enfin d'un air qui était dans sa mémoire et qui a inspiré ce début du troisième acte. En fait, je le disais, comme Proust confond toujours un peu les choses, et c'est comme ça que fonctionne la mémoire de la littérature, les souvenirs s'y brouillent. Proust pense à un autre morceau de Wagner qu'il cite souvent, lui aussi, dans La recherche du temps perdu, qu'il connaît bien, qui est là aussi très emblématique, c'est l'enchantement du Vendredi Saint de Parsifal. C'est ce morceau-là qui a la réputation d'avoir été composé par ailleurs et introduit après coup dans l'œuvre. Et Proust le mentionne souvent, et il y a un passage très ancien de l'époque du Contre Sainte-Beuve où Proust l'évoque précisément dans ce contexte. C'est déjà à propos de Balzac et déjà à propos de l'idée que la comédie humaine n'a connu qu'une unité rétrospective, c'est donc un défaut, mais c'est aussi une grandeur. Et à ce moment-là, Proust disait « L'enchantement du Vendredi Saint est un morceau que Wagner écrivit avant de penser à faire Parsifal et qu'il a introduit ensuite. Mais les ajoutages, ces beautés rapportées, les rapports nouveaux aperçus brusquement par le génie entre les parties séparées de son œuvre, qui se rejoignent, vivent et ne pourraient plus se séparer, ne sont-ce pas là de ses plus belles intuitions ? » Vous voyez, on a toujours cette opposition de, si vous voulez, de l'organique et du mécanique. Ces parties qui ont été inspirées, qui sont le résultat des plus belles intuitions, elles se rejoignent et elles vivent et ne pourraient plus se séparer, elles sont parfaitement solidaires. C'est pourquoi je dis qu'il y a là quelque chose comme la griffe de l'authenticité, même si le morceau a été inspiré à un autre moment. Ce qui est intéressant, c'est que Proust croit beaucoup à cette idée que l'enchantement du Vendredi Saint, c'est un morceau que Wagner avait dans un tiroir depuis des années, et puis qu'un jour, miraculeusement, il a trouvé l'endroit où il devait le mettre, avec un sens du destin, de la prédestination. Or, c'est une idée tout à fait fausse. Cela n'a aucun fondement dans aucun ouvrage sur Wagner, sauf un, je crois que je le citais la semaine dernière, un ouvrage très populaire à la fin du XIXe siècle, c'est le livre d'Albert Lavignac, intitulé « Voyage artistique à Bayreuth, 1897 ». Albert Lavignac, on peut ajouter que Proust le connaissait par l'intermédiaire de Reynaldo Hahn. Dans la correspondance de Proust, il y a des lettres à la fille d'Albert Lavignac. Proust est évidemment au courant de ce texte. Hein, et Lavignac disait de l'enchantement du Vendredi Saint, il a été écrit longtemps avant le reste de la partition. Et dans le Contre Sainte-Beuve, c'était donc un argument fort que Proust utilisait ici pour venir à la défense de Balzac. Balzac, comme Wagner, doit être défendu contre les attaques, bon, c'était les attaques de Sainte-Beuve contre Balzac, en l'occurrence, contre lesquelles Proust en avait. Et il doit être souligné que ses œuvres sont d'autant plus grandes qu'elles sont le produit de ses intuitions géniales. Mais je crois qu'on peut ajouter que dans ce passage, ce qui est aussi important, et on ne peut pas ignorer que s'il est si fortement, gravé dans la mémoire de Proust, c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. Et dans l'opéra de Wagner, non seulement c'est un souvenir après coup de Wagner, cette inspiration, mais la mémoire de Tristan est elle-même en jeu. C'est-à-dire que dans l'opéra de Wagner, l'air du pâtre est lui-même un remémoratif, un mémoratif pour Tristan. Voici le résumé donc de la suite de cet acte. Déjà proche de la mort, Tristan est ramené à la vie par la pensée d'Isolde. Courvenal lui fait savoir qu'il a envoyé chercher Isolde et que son bateau doit déjà être en route. Cette nouvelle provoque chez Tristan une excitation sans limite. Il imagine voir déjà en mer le navire libérateur. Alors retentit à nouveau la chanson du pâtre et Courvenal secoue tristement la tête. Aucun navire n'est encore en vue. Dans une profonde mélancolie, Tristan fait à présent le bilan de sa vie. La mélodie du pâtre devient pour lui le symbole de son destin, où l'aspiration vers la mort et la soif de vivre s'entremêlent inextricablement. Alors voici le second moment que je voudrais vous faire écouter, c'est justement le retour de cette mélopée, un peu plus loin dans l'acte, et donc cette fausse alerte qui déclenche la mémoire de Tristan. Si on peut l'entendre.
Thank you.
Entendu Corvenal, donc, qui est Eberhard Waster, et puis Tristan, qui est Wolfgang Wingassen, dans cet enregistrement. Et donc, la seconde occurrence déclenche sa mémoire, hein, et voici ce qu'il dit. « Dois-je ainsi te comprendre ?» Traduction d'époque. Hein, « Vieille chanson grave, avec ton accent de lamentation. » Par la brise du soir, elle pénétra timidement lorsque jadis fut annoncée à l'enfant la mort de son père. À l'aube du jour craintive, encore plus craintive, lorsque le fils apprit le sort de sa mère, lorsqu'il m'engendra et mourut, lorsqu'elle m'enfanta en mourant. Donc l'air lui rappelle, l'air a déjà résonné lors de la mort de son père. Et puis de la mort de sa mère, et puis ensuite ce même air annonce son destin, à quel sort me réserve-t-elle, hein, cette mélopée, à quel sort la vieille chanson me le redit encore, brûler de désir et mourir. Alors, ce qu'on peut faire remarquer aussi, c'est sûrement l'un des intérêts de Proust pour cet épisode, c'est que dans tout le théâtre, dans tout l'opéra de Wagner, c'est le seul leitmotiv qui soit commenté par le personnage lui-même. Le personnage lui-même nous dit ce que signifie le leitmotiv dans son propre destin, dans son passé et dans son avenir. Et donc, dans cet acte-là, il déclenche ce souvenir qui est aussi celui de ce à quoi on a assisté depuis le début de l'opéra, c'est-à-dire la guérison par Isolde et en même temps cette guérison qui est un filtre empoisonné, le filtre d'amour qui est empoisonné. Donc il y a toute cette thématique du remède qui est le mal, constamment présente dans l'amour proustien. C'est l'amour qui est à la fois le mal et le remède, et ça se répète dans chacun des amours de Proust. Donc, l'air déclenche la mémoire de Tristan, ainsi résumé, dans résumé d'époque, s'éveillant à nouveau de son évanouissement, il croit une fois encore voir le bateau tant désiré, et à son bord Isolde, d'une beauté transfigurée, qui à présent vient à lui pour le délivrer, et cette fois la vision de son délire se transforme en réalité. Une joyeuse mélodie du pâtre annonce l'arrivée du navire. Et si on peut écouter donc le troisième retour, mais retour cette fois transformé, puisque la mélopée plaintive se transforme en mélodie joyeuse, puisque le pâtre voit le navire d'Isolde qui s'approche.
Der nicht den Ding, hörst du mich nicht zum Wagen stehen? Ein Wagen, ich zu verstehen, das Schiff, ich soll.
Sie schlafen!
Bon, vous l'avez entendu, donc le retour, mais complètement transformé de la mélopée plaintive en joyeuse mélodie annonçant l'arrivée du navire. Or, c'est cette troisième occurrence qui est l'objet du commentaire dans La Prisonnière. Donc j'ai envie de dire une nouvelle erreur de Proust, puisque vous l'avez bien entendu, Wagner, lui, se souvenait de la mélopée plaintive des gondoliers dans la nuit de Venise. Ce que Proust identifie comme l'élément important, c'est la mélodie joyeuse que nous venons d'entendre, puisque ce qu'il dit dans cette page de La Prisonnière, dans son commentaire, déplaçant donc le souvenir de Wagner de la mélopée plaintive à l'air joyeux, Proust écrit, son narrateur, avant le grand mouvement d'orchestre qui précède le retour d'Isolt, vous avez entendu à la fin du morceau le mouvement d'orchestre qui commence, c'est l'œuvre elle-même qui a attiré à soi l'air de chalumeau à demi oublié d'un pâtre. Et sans doute, autant la progression de l'orchestre à l'approche de la nef, quand il s'empare de ces notes du chalumeau, les transforme, les associe à son ivresse, brise leur rythme, éclaire leur tonalité, accélère leur mouvement, multiplie leur instrumentation, autant sans doute Wagner lui-même a eu de joie quand il découvrit dans sa mémoire l'air du pâtre, l'agrégea à son œuvre, lui donna toute sa signification. Mais vous le voyez, là aussi Proust fait un déplacement. Depuis la mélopée plaintive, vers l'air joyeux, puisque c'est celui-ci qu'il voit comme un souvenir de Wagner, laissé dans un tiroir et trouvé au dernier moment. En fait, on peut dire que cet air joyeux, c'est celui-là qui est dans la mémoire de Proust, plutôt que l'air plaintif que je vous ai d'abord fait entendre. Parce que cet air joyeux, Proust, en vérité, y fait allusion assez souvent, dans La recherche du temps perdu et ailleurs. C'est cet air joyeux qui est un leitmotiv pour Proust, sans doute, plutôt que l'air plaintif qui précède. Par exemple, lorsque son narrateur attend Albertine avec anxiété au début de Sodome et Gomorre, à la fin de la soirée chez la princesse de Guermantes, le narrateur revient chez lui, il a donné rendez-vous Albertine, qui est censée revenir de Phèdre. Elle est allée au spectacle et le narrateur, pendant toute la soirée chez la princesse, sait qu'il la trouvera. Et en fin de soirée, c'est ce qui le rend paisible. Et rentrant chez lui, il se trouve donc dans une situation comparable à Tristan attendant Isolde. Il attend l'arrivée d'Albertine. Et Albertine doit s'annoncer par un coup de téléphone. Comme le thermomètre tout à l'heure, on a maintenant le téléphone et cette poétisation par Proust de ces objets qui sont devenus très ordinaires, mais qui évidemment l'étaient moins. Et le passage est celui-ci. « J'étais torturé par l'incessante reprise du désir toujours plus anxieux et jamais accompli d'un bruit d'appel. Arrivé au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne, approché soudain de moi, à côté de ma bibliothèque, j'entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan, l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre, le bruit de toupie du téléphone. Je m'élançais, c'était Albertine. » Alors, vous voyez qu'il y a une allusion ici à l'écharpe agitée du pâtre, l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre. L'écharpe agitée, c'est aussi dans Tristan, c'est le signal entre Tristan et Isolde à l'acte 2 et non pas à l'acte 3. Et puis le chalumeau du pâtre, eh bien, vous savez ce que c'est maintenant. Je, je, J'insiste donc sur le fait que c'est un bruit très fortement marqué dans la mémoire de Proust, puisque dans un texte beaucoup plus ancien, de 1907, qui est intitulé « Journées en automobile », on a déjà évoqué ce texte il y a un certain temps pour voir comment l'automobile transformait le paysage, transformait la conquête du terrain. Dans ce texte de 1907, Proust comparait cette fois la trompe de la voiture, encore un objet moderne, la trompe de la voiture, au chalumeau du pâtre. Même idée, c'est lorsqu'il arrive en voiture chez des amis qui l'attendent, la trompe de la voiture prévient les hôtes de son arrivée, et cette trompe de la voiture est elle aussi comparée aux deux motifs de Wagner dans Tristan, l'écharpe agitée et le chalumeau du pâtre. On peut penser quand même que le chalumeau du pâtre fait ici plus de bruit que l'écharpe agitée, et le texte est celui-ci. C'est au chalumeau d'un pauvre pâtre, à l'intensité croissante, à l'insatiable monotonie de sa maigre chanson, que Wagner, par une apparente et géniale abdication de sa puissance créatrice, a confié l'expression de la plus prodigieuse attente de félicité qui ait jamais rempli l'âme humaine. Et je crois qu'on touche là de plus en plus près à ce qui fascine Proust dans ce bruit de l'air du chalumeau, qui est cette coïncidence entre un bruit, comme il dit, l'insatiable monotonie de sa maigre chanson, l'absence d'orchestration, quelque chose de très simple, presque de vulgaire, que cet air de cor anglais, et ce qui est le plus sublime, la plus prodigieuse attente de félicité qui ait jamais rempli l'âme humaine. Et on comprend un peu mieux ce qui est si fort aux yeux de Proust, ce qu'il appelle cette apparente et géniale abdication de la puissance créatrice. Encore une dimension d'oxymoron, de contradiction, le fait que la puissance créatrice s'abolisse elle-même, s'anéantisse au moment le plus sublime, qui est l'attente d'Isolde. Je crois que ce passage est le plus explicite de tous. Mécanique et sublime. C'est cela qui caractérise cet air. Bon, c'est d'une certaine façon aussi ce qui caractérise le bruit de toupie du téléphone ou la trompe de la voiture. Maigre et monotone, contrastant avec l'orchestration qui va suivre dans l'acte 3 de Tristan. Et vous voyez, ce à quoi Proust est si sensible, c'est au fait que ce sommet du wagnérisme, ce sommet de l'émotion, coïncide avec l'air, je dirais, un air presque vulgaire, tel que la trompe de la voiture ou la toupie du téléphone. On a donc toute une série de bruits modernes qui rappellent cette maigre et monotone chanson de Tristan. Alors, on peut ajouter que Proust, je disais, a entendu Tristan et Isolde. Il l'a entendu le 7 juin 1902. Il faut se rappeler ici que on jouait peu les opéras intégraux de Wagner. Proust a entendu Wagner à travers des morceaux choisis au concert L'Amoureux, mais très peu d'opéras dans leur intégralité. Et Tristan n'a été créé à Paris qu'en 1900. L'opéra n'a été joué à Paris qu'en 1900. Proust l'a vu, ou l'a entendu en 1902 avec ses amis Antoine Bibesco et Bertrand de Fénelon. Et on ne va pas tomber ici dans le biographisme, mais c'était évidemment des amitiés qui étaient très importantes dans cette période de sa vie. Peut-être qu'on peut, pour conclure avec cet épisode, ajouter que de manière, me semble-t-il, extrêmement habituelle à Proust, et comme on en a déjà rencontré plusieurs exemples, je l'ai dit, le haut et le bas coïncident souvent, ou le haut peut incessamment se transformer en bas. J'ai évoqué à une ou deux reprises cette logique du rêve qui fait que ce qui est sublime doit aussi être profané. On passe très rapidement du sublime au trivial, et j'ai envie de dire que c'est encore le cas avec cet épisode si chargé de Tristan et Isolde. Cet air du pâtre est un moment que Proust caractérise comme celui de la plus prodigieuse attente de félicité qui ait jamais rempli l'âme humaine, mais en même temps, il peut être transformé en grotesque, ironisé. Et voici l'exemple. Proust écrit une lettre à son ami Sidney Schiff, qui est un Américain qu'il fréquente aussi dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Et il lui écrit le 16 juillet 1921, c'est pour accompagner l'envoi du côté de Guermantes 2, suivi de Sodome et Gomorre 1. Et Proust doit s'excuser parce qu'on est déjà le 16 juillet, que le livre a été publié au début du mois de mai, qu'il ne lui a toujours pas envoyé. On peut se souvenir qu'entre mai et juillet, Proust a été en assez mauvaise santé, puisque c'est dans ces mois-là, à la fin du mois de mai 1921, qu'il a été visité l'exposition des peintres hollandais, qu'il a vu le petit pan de mur jaune de Vermeer. Et comme on le sait, c'est cette visite au musée du Jeu de Paume qui donne lieu à la rédaction de la mort de Bergotte, aussitôt. C'est le motif de la mort de Bergotte. Proust écrit donc à son ami Sidney Schiff, « Je l'aurais fait bien plus tôt, cet envoi, je vous aurais envoyé mon livre bien plus tôt, je l'aurais fait bien plus tôt si je ne venais d'être tout à fait mourant. » Ce n'est pas tout à fait à prendre à la lettre, mais c'est assez sérieux. Mais le passage continue comme ceci. « Je pensais à vous tout le temps, et à force de dire « Chiff, chiff, ma plainte prenait un peu de celle de Tristan attendant la nef. » Alors un jeu de mots qui est assez extraordinaire, cette allusion au navire d'Isolde, et vous voyez comment l'épisode le plus grave est transformé en moquerie de soi-même, puisque ce dont Proust se moque, c'est de ces mots, Das Schiff, que vous avez entendu, qui rythme tout le passage, qui sont répétés à plusieurs reprises. Tristan s'écrie au dernier moment que vous avez entendu, Das Schiff, Isolden Schiff. Je ne vais pas continuer parce que mon accent allemand ça ne sera pas très bon, mais le bateau, tu dois le voir, on doit le voir, le bateau, ne le verrais-tu pas encore? Enfin, il me semble qu'on a un petit peu dans ce das Schiff, le bruit de la toupie, le bruit de la toupie du téléphone qui nous fait toucher à ce qui marque Proust, j'ai envie de dire, à la fois dans le sublime et dans le grotesque de ce passage. Et vous le voyez, on y revient, c'est cela, la mémoire de la littérature, ou la mémoire de l'art, ici, en tout cas chez Proust, c'est ce constant va-et-vient entre le sacré, les œuvres canoniques, Wagner, et le plus familier, le plus quotidien dans la vie, le bruit du téléphone, la trompe de la voiture, et c'est cette constante oscillation qu'on pourrait trouver avec beaucoup d'autres exemples proustiens, Racine, Baudelaire ou d'autres, entre le plus grave et le plus profane. Cette façon pour les idoles de devoir toujours être abaissées, abîmées. Finissons, si vous voulez, par justement quelques mots que le narrateur met dans la bouche de Madame de Guermantes. Madame de Guermantes qui sert à ridiculiser ces opéras dont on a vu qu'ils ont bien quelque chose de sublime pour le narrateur. Madame de Guermantes qui dit le narrateur, elle est du genre de ces gens qui donneraient tout Molière pour un verre de l'étourdi, c'est les engouements des salons, qui donneraient tout Molière pour un verre de l'étourdi, et même en trouvant le Tristan de Wagner assommant, on sauvera une jolie note de cor au moment où passe la chasse. Un peu plus loin, elle dit elle-même, vous avez tort, avec des longueurs insupportables, Wagner avait du génie. Lohengrin est un chef-d'œuvre. Même dans Tristan, il y a, ça et là, une page curieuse. Et le cœur des fileuses du vaisseau fantôme est une pure merveille. Voilà des passages qui caractérisent bien ce mouvement constant dans cette mémoire de la littérature qui élève et abaisse, ne cesse d'élever et d'abaisser. Bien. Avant la pause que nous allons faire la semaine prochaine, puisque je ne ferai pas court la semaine prochaine, et puis ensuite il y aura encore quatre leçons, peut-être que le moment est venu d'un petit bilan pour terminer aujourd'hui. Comme vous l'avez observé, j'ai un peu tendance à me laisser guider de semaine en semaine dans l'exploration de ce terrain que j'ai essayé de délimiter au cours des premières leçons. Terrain de la mémoire, de l'espace, nous avons fait un certain nombre de leçons sur cette spatialisation de la mémoire, et puis cela nous a mené à cette question de la composition, qui est encore une question relative à l'espace au cours de ces dernières semaines. D'une certaine façon, en faisant confiance, un petit peu comme les artistes du XIXe siècle, à l'idée que les choses se mettent en place peu à peu, que les pièces du puzzle deviennent solidaires assez rapidement. Mais je me rends compte que, jusqu'au point où nous en sommes, j'ai repoussé un certain nombre de, au fond, chapitres obligés dans le traitement d'un tel sujet. Et je crois que je dois un petit peu m'en expliquer. Je n'ai pas beaucoup parlé, par exemple, de ce que c'est que la citation, de ce que c'est que l'allusion, de ce que c'est que le pastiche chez Proust. Ce sont des sujets que je prévoyais de traiter au début de ce cours, et puis je ne cesse de différer le moment de les aborder. Peut-être parce que je n'ai pas trop envie de revenir à des choses que j'ai déjà faites. Il y aurait aussi un chapitre sur Proust et Racine à faire, mais je crois que je l'ai déjà écrit, et c'est peut-être pas nécessaire de le refaire. Ou un chapitre sur Proust et Balzac, ou quelque chose comme cela. Au fond, ce dont je me rends compte après un certain nombre de leçons, c'est que j'ai sans doute beaucoup plus de liberté que je n'en avais de l'autre côté de la rue, Saint-Jacques, qu'il n'y a pas d'examen au terme du cours, et que je suis... Je, Je ne souffre plus du sentiment du devoir ou du surmoi qui affecte le professeur qui doit faire le tour du sujet. Il n'y a plus l'idée qu'il faut avoir traité l'état de la question, hein, ce fameux état de la question, ce status questionis, hein, faire le point sur la bibliographie d'un sujet. Vous connaissez sûrement les pages de Peggy, où Peggy se moquait beaucoup de cette Sorbonne, où on passait tout le temps du cours à faire le point sur la bibliographie, à faire l'état de la question, puisqu'il fallait épuiser l'état de la question afin, comme on disait, de la renouveler. Donc, ces chapitres obligés, ils ont été largement repoussés. Je ne me sens pas trop coupable parce que il me semble aussi qu'un certain nombre des invités du séminaire ont parfaitement complété mon propos, et je n'évoquerai que les deux dernières pour ne pas remonter plus loin. Nathalie Mauriac nous a donné une analyse magistrale, extrêmement fouillée, extrêmement persuasive, d'une seule allusion de Proust à Flaubert, et elle nous a parfaitement montré comment cette allusion traversait toutes les couches du texte pour se retrouver là aussi très transformée dans le texte définitif. Et la semaine passée, Annick Bouillaguet nous a proposé une analyse du pastiche et, à travers ce pastiche des Goncourt, dans le temps retrouvé, une analyse elle nous a rappelé l'importance du pastiche pour Proust. Et je crois donc que je suis un peu autorisé à laisser ces choses de côté. Alors je voudrais revenir, pour finir, à cette notion de mémoire de la littérature et à la manière dont je l'ai entendue jusqu'ici et dont je continuerai à l'entendre après l'interruption de la semaine prochaine. Avec, je vous le rappelle, ces deux sens, la littérature se souvient, on se souvient de la littérature. Comme souvent, on retombe, après coup, c'est aussi cette logique rétrospective, cette logique de l'après coup, on retombe après coup sur ce qui a pu être à l'origine d'une réflexion, par hasard. Et par hasard, il y a quelques jours, je suis tombé sur une phrase dont j'ai un peu envie de dire, et je voudrais la commenter un moment, qu'elle résume tout le propos que j'ai tenu jusqu'ici, et peut-être que c'est cette phrase qui est à l'origine du projet de ce cours. Je relisais, il y a quelques jours, la préface que j'ai écrite pour les réflexions sur la littérature de Thibaudet, que j'ai terminée et qui doivent paraître en avril. Et relisant cette préface, j'ai été frappé par une phrase, une citation de Thibaudet que j'avais faite en la rédigeant, mais que j'avais complètement oubliée. Donc j'étais frappé un peu comme le narrateur s'écriant Tristan. Et la phrase, c'est celle-ci. C'est une phrase de Thibaudet à propos de la recherche du temps perdu dans son histoire de la littérature, comme roman de la mémoire. Il en parle comme roman de la mémoire. Et il dit, « Ces fouilles dans la mémoire de l'auteur s'accordent à des fouilles dans la mémoire épaisse de la littérature, dans une tradition qui remonte à Montaigne, qui passe par Saint-Simon, etc. » Cette phrase est, je la relisais, j'en étais frappé, « Ces fouilles dans la mémoire de l'auteur s'accordent à des fouilles dans la mémoire épaisse de la littérature. » Ce qui me frappe dans cette phrase, la retrouvant et essayant d'y résumer ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est l'idée de cette collusion, ce que Thibaudet appelle un accord, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire exactement par accord, entre la mémoire individuelle, la mémoire intime, la fouille dans la mémoire de l'auteur. On peut remarquer en passant que Thibaudet ne fait pas beaucoup de différence entre l'auteur et le narrateur. Pour lui, la recherche du temps perdu, ce sont des fouilles dans la mémoire de l'auteur. Eh bien, ces fouilles dans la mémoire de l'auteur sont inséparables, à ses yeux, de fouilles dans la mémoire épaisse de la littérature. Fouiller sa mémoire individuelle, c'est fouillé, c'est inséparablement fouillé la mémoire littéraire. Le passage continue comme ceci, parce que je suis retourné au passage, au-delà de ce que je citais, et voici ce qu'il disait aussitôt après, « De sorte que, dès qu'avec Proust, un certain sentiment de familiarité s'est établi, on a reconnu qu'on l'attendait, que le roman français faisait avec lui une de ces remontes naturelles et nécessaires. » Que le roman français faisait avec lui une de ces remontes naturelles et nécessaires. Alors on pourrait s'interroger longtemps sur ce mot de remonte. Qu'est-ce que c'est qu'une remonte en français ? C'est beaucoup de choses et il me semble qu'un mot comme celui-ci résume assez bien cette mémoire de la littérature, ce que Thibaudet pouvait en entendre et ce que nous pouvons en entendre. Une remonte, je n'ai plus beaucoup de temps pour le dire, mais dans remonte, une remonte, c'est le fait de remonter un cours d'eau, c'est le banc de poissons qui remonte le fil du fleuve, c'est aller à contre-courant. Une remonte, deuxièmement, le substantif veut dire c'est se pourvoir en chevaux, comme on dit, des chevaux de remonte. Et venant des chevaux de remonte, c'est faire provision d'eux. Et vous l'avez remarqué, Proust disait, le roman français avec Proust faisait avec lui une de ces remontes naturelles et nécessaires, faisait une provision. Dans le Trésor de la langue française, l'expression qui est utilisée pour ce sens de remonte vient de Chateaubriand, qui parle de l'île de Sales, au début des Mémoires d'Outre-Tombe, et qui dit « Chaque année, au printemps, il faisait ses remontes d'idées en Allemagne. » Il allait chercher des idées, il faisait provision d'idées en Allemagne. Et Thibaudet lui-même dit de Chateaubriand, pour employer l'expression qu'il applique à un autre, il faisait au Saint-Sépulcre ses remontes de littérature et ses provisions d'amour. Faire provision de littérature. Voilà ce dont il est question. Faire provision de littérature à contre-courant, en retournant en amont dans la tradition. Et puis on pourrait ajouter beaucoup d'autres sens à cette remonte. Thibaudet appelle Bergson le grand remontant. Là aussi c'est un jeu de mots, le grand remontant parce qu'il va à contresens, il va à contre-courant. Mais dans le grand remontant, il y a évidemment aussi le grand fortifiant, le grand reconstituant. Et puis, dans les remontants, c'est Peggy qui emploie aussi cette expression, hein, il parle des races remontantes. Mais cette fois-ci, ce sont les fleurs, c'est l'usage du mot en horticulture, hein, ces fleurs qui fleurissent plusieurs fois dans l'année. Et je crois que voilà un mot qui, au fond, résume tous les sens de cette mémoire proustienne pour la littérature, faire ses provisions de littérature, faire ses provisions à contre-courant, remonter la pente, comme Bergson ou comme Peggy entendait le faire, remonter à la fois le fil de ses souvenirs et aussi le courant de la tradition, tout cela pour donner des fleurs plusieurs fois dans l'année, comme les roses remontantes. Eh bien, terminons sur cette image de la remonte, Proust comme remonte de la littérature.